Politeia, portrait d'élu de proximité. Une émission réalisée par Véronique Leroux et Margot Bonnet.
Thomas, bonjour.
Bonjour.
Alors, cette fois-ci, j'aimerais bien qu'on s'intéresse de manière très pratico-pratique ou très encore plus concrète à la vie de l'élu de proximité. J'aime bien cette expression-là parce qu'il y a proximité dedans. En ce moment, on peut dire qu'on est en quoi? On dirait en campagne, en pré-campagne.
Les idées commencent à se former. Certains s'imaginent bien candidats. D'autres réfléchissent plutôt sur des contenus et des programmes, mais en tout cas, on entre dans la phase de préparation, oui.
Ok. Donc les élections, pour rappel, ont lieu en mars de l'année prochaine, 2026. Alors parce que cette expression, pour vous, ça paraît très clair. Qu'est-ce que ça veut dire être en campagne ?
Être en campagne, ça peut prendre des formes très différentes. Ça peut vouloir dire faire connaître des candidats, ça peut vouloir dire travailler sur des idées, un programme, ça peut vouloir dire passer son temps à interpeller l'équipe en place pour ou la critiquer, ou lui suggérer de faire autre chose. Enfin bref, c'est aussi rechercher, bien entendu, toutes les personnes qui vont constituer l'équipe à venir, en tous les cas celles que l'on espère à venir. Donc c'est des tâches très différentes.
Et alors ça, c'est un moment plutôt quoi? Plutôt joyeux, plutôt... comment vous le qualifieriez, vous? C'est un moment que vous appréciez?
Il faut un moment, il faut qu'il y ait de l'enthousiasme et de l'envie. D'abord, réfléchir à avoir des idées, convaincre les gens de ce qu'on a envie de faire, aller chercher et convaincre des personnes de participer à cette aventure, et puis aller à la rencontre de la population pour d'abord tester ses idées, les faire connaître, voir les proposer. Enfin, donc il y a, si on n'a pas un peu d'enthousiasme et d'envie à cette période-là, c'est pas la peine de continuer.
Alors tester ces idées, ça quoi? Ça passe par des réunions publiques? Ça passe par, je sais pas, des moments dans des cafés? Enfin, comment est-ce qu'on fait ça pour tester? On n'aura pas des sondages?
À mon avis, aujourd'hui, c'est vrai, il est vrai que ce qui se faisait autrefois, la réunion publique, contradictoire, ça a un peu disparu. Beaucoup passent aujourd'hui par les réseaux sociaux, les blogs, ce que chacun peut écrire sur Internet. Moi, je n'ai jamais pratiqué cela. Donc, j'ai peu d'expérience dans ce domaine. Moi, j'ai plutôt l'expérience de la réunion publique, ce qui se passait il y a 20 ou 30 ans. J'ai plutôt l'expérience de petites réunions qu'on appelait des réunions, alors de mot commercial Tupperware, chez l'habitant, où on réunissait 10-15 voisins.
Ça doit exister encore, ça, non?
Ça doit sans doute encore se faire. Dans un quartier, dans une rue, donc des petites réunions où on essaie de tester un peu par rapport soit au quartier en question, soit à une catégorie professionnelle, un certain nombre d'idées. Bon, donc les formes sont diverses, mais je pense qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont quand même un élément essentiel des campagnes électorales, en tous les cas du partage d'idées.
Alors pendant la campagne, qu'est-ce qui est le plus utile pour à la fois constituer une équipe, pour embarquer le plus de monde possible, pour convaincre? On a besoin de quoi? Enfin, de l'enthousiasme, ça on a compris, un peu de joie quand même, beaucoup d'envie. J'ai l'impression de faire le gâteau de peau d'âne là, et quoi d'autre?
Ouais, il faut avoir sans doute aussi quelques idées. Sur une bonne connaissance de la commune ou de la ville, pour en connaître les problèmes, pour en connaître les préoccupations, pour savoir ce qui a pu réussir dans le passé, pour essayer d'imaginer comment peut être l'avenir. Donc je crois qu'il faut aussi, il faut quand même quelques idées.
Mais comment on se sent légitime? On habite dans une commune et un jour on se dit c'est bon, j'y vais. C'est quand même pas simple.
Oui, je pense que c'est souvent la suite d'autres engagements. Peut-être que dans une grande ville ou dans une petite commune, les choses sont différentes selon que les partis politiques sont organisés, ont des équipes déjà plus ou moins prêtes, en tous les cas ont des leaders affirmés, donc qui vont conduire les opérations en quelque sorte ou diriger la préparation. Mais souvent, dans une commune, c'est le résultat d'engagements antérieurs, de personnes qui sont un peu reconnues, qui sont sollicitées, qui sont poussées, parce qu'elles se sont bien occupées de telle association, de tel club sportif, parce que dans leur activité professionnelle, elles ont un rayonnement, une reconnaissance. Je crois que les situations sont sans doute très différentes d'un endroit à l'autre, mais souvent il y a un peu cette... la reconnaissance par les autres que l'on est déjà impliqué dans la vie de la ville, de la commune. Soit par des responsabilités, soit par un rayonnement professionnel.
Alors, on va partir du principe qu'ensuite, il y a les élections. Après les élections, il y a une expression qu'on entend souvent, c'est les... Je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'est les 100 jours. Alors, voilà. Bon, c'est un terme qu'on... Voilà. En tout cas, le début de mandat. Le début de mandat, comment ça se passe quand on est dans la minorité? Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Et comment ça se passe quand on est dans la majorité?
Ah ben, si on est dans la minorité, c'est... Je vais dire assez facile. On n'a pas de responsabilité. Donc, on est...
Oui, c'est pas pour ça qu'on fait rien pendant 6 ans.
On est dans le regard critique, souvent, malheureusement d'ailleurs, peu constructif. C'est très souvent le cas. Et puis, il y a eu des affrontements pendant la période électorale, donc il faut sans doute un peu de temps pour que ça s'apaise et que ça se calme. Quand on est dans la majorité, ou on est dans la continuité, c'est-à-dire qu'on a gagné une élection alors qu'on était déjà élu et maire, ou bien on est nouveau. Si on est dans la continuité, souvent il ne se passe pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on avait un certain nombre de projets en cours ou à venir, que l'on va poursuivre. On avait des méthodes de travail, on a souvent une continuité aussi dans les personnes. Donc une majorité qui continue, souvent il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de 100 jours, il n'y a pas de... Bon, on est dans la continuité. Une majorité nouvelle a sans doute des attitudes diverses. Ça peut être... D'abord, le bilan vengeur de ce que les autres ont fait avant pour dire « nous, on n'a pas de responsabilité dans toutes ces difficultés financières qu'on va rencontrer, etc. » Donc, il peut arriver qu'on fasse ce genre d'exercice, quoi, un premier bilan pour dénoncer tout ce qui a été mal et tout ce que l'on ne pourra pas nous reprocher à nous par la suite. Bon, ça peut être une attitude, ça peut être aussi envie de dire bah, « il y a un départ nouveau et puis on se met au travail et puis on y va, quoi. »
Et alors du coup, là, il y a la nécessité de répartir les rôles de chacun, que chacun trouve et prenne sa place. Et donc là, j'imagine que le rôle du maire ou de la maire est très important.
Ben c'est le chef d'orchestre. Hein, le maire est, ou la maire est le chef d'orchestre de l'équipe. Donc c'est effectivement lui qui alors, répartit. Discute en tous les cas avec les uns les autres des responsabilités qu'ils vont occuper. Il a souvent une idée, lui, de, parce qu'il connaît les personnes qui l'entourent, de ce qu'il va leur confier ou leur demander. Mais il peut arriver que des collègues n'aient pas envie de faire ce qu'on leur propose. Certains n'ont pas forcément le goût des finances, même si on les y invite. Il y a un danger, je ne sais pas si c'est un danger en tous les cas, quelque chose que j'ai toujours essayé d'éviter, c'est-à-dire de confier une responsabilité à un élu qui corresponde à son domaine professionnel. C'est-à-dire, j'ai jamais souhaité que l'adjoint aux finances soit un comptable ou soit le financier d'une entreprise. Je crois que l'élu n'est pas un technicien. L'élu est un élu, c'est-à-dire qu'il fait de la politique, il a des idées, il a envie de faire quelque chose pour sa commune, pour sa ville, mais il n'est pas un bureaucrate. Et donc, un financier, ben, il reste un financier malgré tout. Donc, avoir des financiers dans son équipe, c'est intéressant parce qu'ils auront aussi un regard sur les équilibres, etc. Mais je crois que, de même, confier les écoles à un enseignant ne m'a jamais paru une bonne idée. Parce que ben, l'enseignant, il est trop impliqué, il est partie prenante. Et je crois qu'avoir un regard différent, décalé, est aussi utile et intéressant. Donc voilà, essayer de répartir des responsabilités en évitant la confusion vie professionnelle, vie politique. Et puis, malgré tout, il faut que les élus aient envie aussi, s'intéressent à ce qu'on leur propose. Si on leur propose un sujet qui ne les intéresse pas, il n'est pas sûr que l'engagement sera à la hauteur de ce que l'on attend.
Alors là, vous avez évoqué aussi en creux le rôle des, ce que vous appelez les techniciens, c'est-à-dire les agents. Et quand on arrive et qu'on est un nouveau maire, une nouvelle équipe dans tous les cas, mais j'imagine qu'il y a aussi des calages là-dessus, puisqu'il y a deux catégories finalement. Il y a l'équipe d'élus qui arrive ou qui revient ou qui reste. Et puis il y a à apprivoiser quand on arrive à rencontrer l'équipe d'agents. Ça, c'est quelque chose qui est aussi du registre du maire. Enfin, comment ça se travaille, ça ?
Je sais pas si ça se travaille. Les élus ont besoin, de toute façon, de l'équipe d'agents de la commune. Ont besoin du directeur général, d'une des responsables de différents services. Il y a malgré tout nécessité d'un minimum de confiance. Et confiance à la fois dans l'engagement auprès de la municipalité, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa couleur politique, et engagement en termes de compétences. Bon. Après, c'est à l'expérience qu'on voit comment les choses se passent. Il peut arriver, ça arrive souvent dans les grandes villes, qu'une nouvelle municipalité ait envie de changer un grand nombre des responsables des services municipaux. Comme il peut arriver qu'elle les conserve. Après tout, c'est en travaillant ensemble qu'on verra bien si les choses se passent bien. Si l'équipe, si l'encadrement, les responsables des agents municipaux se sont engagés dans la campagne municipale du maire sortant et puis que ce maire-là n'est pas élu, c'est plus compliqué. Donc je crois qu'il y a aussi, de la part des agents, une réserve à avoir par rapport à leur métier. Ce que l'on attend des agents, c'est un avis professionnel. Et un avis professionnel, réellement avis professionnel. Moi, j'ai toujours insisté auprès des cadres, des collectivités dans lesquelles j'avais des responsabilités pour qu'ils me donnent leur avis et non pas qu'ils me donnent l'avis qu'ils croient que j'attends. Parce que souvent, on a aussi cette attitude-là de cadres qui se disent « qu'est-ce qu'il veut ? Il veut faire ce truc ? Ouais, je vais lui donner la bonne réponse, même si c'est une bêtise. » Moi, j'ai toujours pensé que les bêtises, les élus peuvent les faire tout seuls. Ils n'ont pas besoin qu'on les pousse pour ça. Et la fonction d'un financier, d'un urbaniste, d'un ingénieur, c'est de dire en quoi il est expert dans son art, dans son métier.
C'est du conseil, en fait.
C'est un conseil éclairé et intelligent, et non pas un conseil complaisant.
Parfait. Alors on arrive maintenant, tout à l'heure vous avez dit, ben voilà, dans la minorité en tout cas, les 100 premiers jours, ben, on fait un peu profil bas, puis bon voilà, on attend un peu que ça passe, parce qu'il y a eu quand même la période où un peu pas d'affrontement, mais où chacun a essayé d'être élu. Alors maintenant, quand on arrive à mi-parcours, ben là, ça fait un petit moment que les élections sont passées, finalement c'est quoi le rôle des uns et des autres? Alors je reviens sur cette histoire de minorité, ça sert à quelque chose une minorité? Qu'est-ce qu'elle peut faire?
La minorité est un aiguillon pour l'équipe municipale en place. C'est un aiguillon, c'est un œil d'observation, de surveillance. C'est aussi, ça peut être aussi un rôle de proposition. La minorité n'est pas condamnée. Alors, évidemment, si on est dans l'affrontement permanent, dès que l'un dit A, l'autre répond B, bon, le mandat va se passer comme ça, dans l'affrontement permanent. Mais la minorité peut aussi avoir des idées, et la majorité peut avoir l'intelligence de les trouver intelligentes.
Autrement dit, il est possible d'imaginer une forme... j'allais dire, de coopération intelligente à certains moments, plutôt que d'affrontement systématique. C'est ça que j'entends.
Oui, sûrement. D'ailleurs, quand on regarde souvent les comptes rendus de conseils municipaux, on s'aperçoit que, en tout cas, moi, c'était le cas, j'ai toujours eu des oppositions, que la plupart, sinon le très grand nombre de délibérations sont acceptées à l'unanimité. Et il n'y a que sur quelques points très symboliques qui ont fait l'objet de différenciations dans les programmes, quelques points très symboliques sur lesquels majorité comme opposition restent campés sur leur position et donc donnent des votes divergents. Mais sur beaucoup de sujets qui sont de la vie quotidienne de la commune, les votes sont unanimes.
C'est heureux, ça veut dire qu'en fait chacun se retrouve sur le bien commun qui correspond.
Oui,
à...
oui. Ouais.
Et alors du coup, mi-parcours pour la majorité, bon voilà, on continue tranquillement. Rien de spécial.
Ce qui peut être dangereux pour une majorité qui continue, c'est d'être dans la routine ou dans l'endormissement. Donc c'est une bonne chose, à mon avis, de faire périodiquement le point sur les engagements qui ont été pris, vérifier les projets qui ont avancé, ceux qui n'ont pas pu aboutir, pour quelles raisons, essayer de le comprendre ou de les expliquer, et puis avoir des ambitions nouvelles, enfin en tous les cas des ambitions toujours plus fortes pour continuer. Sinon, si c'est une gestion au quotidien, bon, ça a peu d'intérêt en fait.
Alors on arrive à la fin du mandat. La fin de mandat, quand on repart, bon ben on voit que là c'est comme une espèce de boucle, on va préparer la suite et on va basculer dans la préparation, etc. Et quand on repart pas, qu'est-ce qui se passe ?
La vie continue.
Alors la vie continue et
la vie continue jusqu'au bout. C'est-à-dire que le mandat, il se termine au moment de la nouvelle élection. C'est-à-dire que même si un maire annonce qu'il ne se représentera pas dans 6 ou 8 mois, il est encore maire pendant 6 ou 8 mois. C'est-à-dire qu'il a encore des décisions à prendre. Éventuellement, il ne va sans doute pas lancer de nouveaux projets faramineux ou pharaonesques à quelques mois de la fin de son mandat s'il s'arrête. Mais les idées ne doivent pas s'arrêter. Et l'action non plus.
Et ma question aussi, c'était, dans certains cas, notamment dans la fonction publique, on peut retrouver le poste qu'on occupait avant. Parfois, c'est plus difficile quand on a fait ce choix-là, etc. Qu'est-ce qu'on devient après ? Ça me fait penser à un moment donné, il était question de travailler un peu le statut des élus, etc. etc. Parce que là, l'idée, c'est aussi de faire en sorte que le plus de personnes possibles se disent « Allez, pourquoi pas moi ? Je vais y aller, etc. » Mais qu'est-ce qui se passe après ?
Ça, c'est une vraie difficulté dans la démocratie locale. C'est que, c'est vrai, un fonctionnaire... une fois son mandat terminé, qu'il l'arrête ou qu'il perde l'élection, va à toute chance de retrouver son poste. En tous les cas, un poste du même niveau qu'il l'avait auparavant, que celui qu'il avait auparavant, peut-être pas forcément au même endroit, etc. Mais en tous les cas, il n'est pas au chômage. Les choses sont plus difficiles pour une profession libérale, quelqu'un qui a fermé son cabinet de médecin ou d'avocat et pendant 6 ou 12 ans et puis qui doit reprendre, ou pour un artisan ou pour un autre acteur d'une profession libérale, un agriculteur, etc. Bon, les choses sont plus compliquées. Tant qu'il n'existe pas de statut de l'élu, il y aura toujours ce risque-là. Alors, risque... pour la personne de se voir privée d'emploi ou d'activité, ou d'avoir perdu son activité, ou risque d'avoir envie de continuer simplement pour des raisons financières. Et je trouve que un élu ne devrait pas être obligé de continuer à être élu pour des raisons financières. Parce que ça, c'est sans doute une perte de sens et de signification pour la fonction. Malheureusement, il existe un certain nombre de situations où l'élu continue parce qu'il ne on ne voit pas comment il pourrait faire autre chose.
Autrement dit, être élu n'est pas un métier.
À mon avis, ce n'est pas un métier. Et il ne faut pas que ça devienne un métier. Même si on attend toujours plus de l'élu en termes d'expertise ou de professionnalisme, je crois que la fonction d'élu est une fonction qui est accessible à tous les citoyens, qui doit être exercée un temps dans sa vie, mais pas toute sa vie, et qui doit être un plaisir, une envie, et non pas une obligation.
D'ailleurs, vous parliez de chômage. Quand on cesse d'être élu, on a droit au chômage ?
Alors, il existe un certain nombre de mécanismes, je ne les ai plus en tête maintenant,
d'accord,
et puis la loi a évolué, qui permettent d'avoir pendant quelques mois encore le mandat, sans doute des droits à la formation, mais il n'y a pas de garantie.
Alors moi, j'ai rencontré quelques élus qui ont eu par la suite, finalement, pas mal de difficultés à valoriser leur engagement, leur mandat, etc. Qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce qu'on apprend quand on est élu ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en valeur ? Parce que s'il y a une vie après un mandat, et qu'on a une quarantaine d'années ou 45 ans, enfin bref, on est encore très jeune, donc, comment valoriser ça ?
Si on a été élu pendant 6 ans, 12 ans, on a forcément acquis un certain nombre d'expériences qui méritent d'être valorisées. Que ce soit dans la conduite d'équipe, que ce soit dans l'organisation de réunions publiques et le dialogue, que ce soit dans la connaissance d'un certain nombre de sujets. Par exemple, on a des élus qui sont très spécialisés sur l'urbanisme, d'autres très spécialisés sur la vie associative et l'organisation et l'encouragement de la vie associative, ou sur l'environnement, des compétences particulières qu'ils ont acquises parce qu'ils ont travaillé. Bon, je crois que tout cela mérite d'être valorisé. Les mécanismes de valorisation d'acquis de l'expérience sont quand même compliqués et lourds à mettre en place, demandent du temps. Mais je pense qu'on aurait intérêt à les simplifier, en tous les cas, à les organiser de façon plus systématique pour les élus qui en ont envie.
Et tout à l'heure, et on terminera peut-être là-dessus, sur, vous avez évoqué le statut des élus, ça me paraît être vraiment pas un serpent de mer, mais ça ressort très régulièrement. Et aujourd'hui, on en est où ? C'est quelque chose qui est... Ah, je vois votre nom verbal.
J'ai un peu perdu le suivi de ces sujets-là. Est-ce que les élus ne peuvent pas aussi utiliser pendant leur temps d'élu le droit à la formation qui existe pour préparer leur sortie ? Ça doit être aussi des choses qui sont possibles.
Préparer la suite, se former et se projeter. Autrement dit, il y a une vie après élu.
Tout à fait, oui. Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.